À l'émission Sous l'Olivier, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Généalogie spirituelle », animée par le regretté Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.
Il s'appelle Viktor Frankl, c'est un psychiatre autrichien. Il fait partie de mes ancêtres. Il a mis au monde quelque chose de ma vie intellectuelle et de ma vie spirituelle. Je suis heureux de vous le présenter, de vous introduire dans son univers. Je lui dois de mieux comprendre l'importance et le rôle de la psychologie en regard de la religion. Il m'a fait connaître la force et la valeur de l'humour pour venir à bout de nos problèmes personnels. Et surtout, il m'a convaincu que rien n'est vraiment irrémédiable dans notre petite vie, que nous demeurons toujours libres de lui donner un sens par l'attitude que nous adoptons face à la réalité. Né à Vienne, en Autriche, le 26 mars 1905, Viktor Frankl est décédé dans sa ville natale le 2 septembre 1997. Il fait partie, avec Freud, dont il fut l'élève, et Adler, des trois grands psychiatres de Vienne. Freud, on le sait, fut le grand explorateur de l'inconscient et le fondateur de la psychanalyse. Pour Freud, c'est la volonté de plaisir, la libido, qui est le noyau central autour duquel s'organise et se structure la vie de la personne humaine. Pour lui, le problème fondamental, c'est celui de la frustration sexuelle. Les gens sont malades parce qu'ils ne sont pas satisfaits sexuellement. Adler, quant à lui, centre sa réflexion sur la volonté de puissance et il constate que les gens sont malades à cause des complexes d'infériorité, parce que leur vie se trouve dévalorisée. Frankl, lui, base sa théorie sur la volonté de sens. Si les gens sont malades, c'est parce qu'ils ont perdu le sens et l'orientation de leur vie. Par sa théorie qu'il appelle la logothérapie, c'est-à-dire la thérapie par le sens, Frankl veut humaniser la psychanalyse de Freud, qui entend démasquer les névroses, et il veut humaniser aussi le behaviorisme, lequel tente à démythologiser les névroses. C'est le propre de l'homme, insiste Frankl, de s'interroger sur le sens de la vie. Certaines névroses, certaines maladies psychologiques, sont produites par le sens de la vie. Il appelle ces névroses les « Sunday neuroses », les névroses du dimanche, les gens qui s'ennuient le dimanche parce qu'ils savent pas quoi faire de leur vie. Certaines névroses sont donc produites par la perte du sens, par le refoulement de la religiosité. Il existe pour Frankl un inconscient religieux comme il y a un inconscient psychologique. C'est dire que Frankl tient compte de la religion. Il s'intéresse, et c'est son originalité, à ce qu'il appelle la psychologie des hauteurs par rapport à la psychologie des profondeurs qu'a exploré Freud. Ses patients ne sont pas couchés, essayant de dire des choses difficiles, Mais ces patients se tiennent debout et ils ont à entendre des choses dures. On a interrogé Frankel sur sa religion. Dans son livre « Man's Search for Meaning » de 1946, on ne trouve aucune mention du mot « juif ». Frankel ne capitalise pas sur le fait qu'il est un juif et qu'il a souffert comme juif durant la dernière Grande Guerre. Les lecteurs sont curieux de connaître ses convictions religieuses, sa croyance en Dieu. Son épouse est catholique. Il y a une croix au mur de son appartement. Dans ses livres, il parle souvent de l'âme, de cette partie la plus haute de l'homme, des impulsions religieuses. Il parle du Dieu inconscient. « Je ne me permets pas, dira Frankel, de confesser personnellement si je suis religieux ou non. J'écris en tant que psychologue, j'écris en tant que psychiatre, j'écris en tant que faisant partie d'une faculté médicale. Et cela donne plus de force au message, car si vous identifiez comme une personne religieuse, immédiatement les gens diraient « Oh bien, c'est un psychologue religieux. Débarrassez-moi de son livre. » Actuellement, j'en suis rendu à définir la religion comme une expression, une manifestation, non seulement de la volonté de sens de l'homme, mais encore du désir de l'homme, d'un sens ultime, c'est-à-dire un sens qui est tellement compréhensif qu'il n'est désormais plus compréhensible. Mais il devient alors un objet de croyance plus que de pensée, de foi plus que d'intelligence. La présence d'un supersens, échappant à la pure saisie rationnelle, demeure une des principales doctrines de la logothérapie. Et une personne religieuse peut identifier le supersens comme quelque chose d'approchant du super-être, ce super-être qu'on appellerait Dieu. C'est par l'humour et le recours à la transcendance de soi que Frankel entend guérir ses patients. Il a expérimenté lui-même cette méthode dans le terrible laboratoire expérimental que furent ces 3 années de camp de concentration à Auschwitz et à Dachau, de 1942 à sa libération en avril 1945. Lors de sa déportation, il apportait avec lui, caché dans son manteau, le manuscrit de son premier livre, « Le médecin de l'âme ». Lorsqu'on le dépouillera de son manteau à son arrivée au camp, son manuscrit sera perdu et il devra le reconstituer de mémoire. Au sortir de son expérience de concentration, où paradoxalement il a découvert sa liberté intérieure dans des conditions les plus contraires, il publiera son livre « Man's Search for Meaning » en 1946, son œuvre la plus populaire qui présentait la logothérapie. Cet ouvrage sera publié à 9 millions de copies, dont 5 millions aux États-Unis seulement. Une traduction parue en France porte le titre « Un psychologue déporté témoigne ». Une autre traduction française sera publiée au Québec sous le titre de « Découvrir un sens à sa vie ». À la fin de sa vie, la bibliographie de Frankel comporte 32 livres traduits en 29 langues, une trentaine de doctorats honorifiques, de nombreux prix, la création de nombreux instituts et de sociétés portant son nom atteste de la renommée universelle de Viktor Frankl. Frankl veut vraiment humaniser la psychanalyse, l'analyse de l'âme humaine, en la présentant largement sous tous ses angles. Son approche est existentielle, elle rejoint le riche vécu de la personne sans la réduire, comme tentent de le faire les behavioristes, à une pure question de mécanique ou de biologie. En ce sens, la pensée de Frankl est fortement marquée par la philosophie. Elle nous présente une vision globale de l'homme et elle se présente comme une sagesse. Une des illustrations les plus convaincantes de l'humanisme de Frankl se trouve dans sa célèbre présentation de trois façons fondamentales de se comporter face à la réalité, dans les trois manières de trouver du sens à sa vie. La première façon consiste, lorsqu'on se trouve devant quelque chose de beau, de bon, de vrai, en la capacité d'accueillir et de goûter ces réalités. Il s'agit alors de valeurs d'expérience ou de contemplation. Et ces valeurs devraient se développer au tout début de la vie, au temps de la découverte du monde, entre 13 et 15 ans, d'une manière toute spéciale. La deuxième façon de se comporter face à la réalité consiste à accueillir les choses qui sont ni bonnes ni belles en les transformant. Ce sont des valeurs de création qui entrent en jeu précisément quand on peut changer et transformer par le travail et par l'action ce qui se trouve devant nous et qui n'est pas bon ni beau. Rendre les choses bonnes et belles pour qu'on puisse les contempler et les goûter. Par exemple, la rudesse du climat québécois a forcé, pour ainsi dire, l'ingéniosité de nos ancêtres à créer des vêtements chauds, des skis, des motoneiges pour pouvoir goûter les joies de l'hiver. C'est le propre des personnes au sommet de leur vie, entre 45 et 50 ans, d'exercer à plein cette créativité. La deuxième façon s'impose, tout particulièrement, passer le cap de la soixantaine, de 65 ans et plus, quand la personne est confrontée à la perspective du vieillissement, de la maladie, de la mort. Frankl parle alors de valeurs attitudinales, des valeurs d'attitude. Alors que l'on ne peut rien changer devant la réalité mauvaise, il demeure que l'on peut encore trouver un sens dans la manière de vivre cette situation, en se changeant soi-même, selon l'attitude que l'on adopte face à une maladie incurable, à un état de fait ou une situation inévitable. Comme l'écrit Frankl, l'homme peut être dépouillé de tout sauf d'une seule chose, choisir sa propre attitude, choisir son propre chemin, sa propre façon de réagir dans certaines circonstances. L'expérience de Frankel dans les camps de concentration lui a appris que l'homme peut se réaliser même dans la souffrance. Tout dépend de la manière de vivre les difficultés. On peut se diminuer ou se grandir. Comme disait le cardinal Sunens, on ne peut pas changer le vent, mais on peut ajuster ses voiles. Il est toujours possible d'accepter l'inévitable, de faire servir à ses propres fins ce qui apparaît contraire. C'est là la définition la plus profonde, je pense, de la liberté humaine. Pour Frankel, évidemment, l'homme n'est pas un animal comme les autres. Il n'est pas réductible à la satisfaction de ses besoins, de ses instincts, aux réflexes conditionnés, au déterminisme. Il n'est pas informé de sa conduite comme les animaux, par des pulsions et des instincts. Il ne l'est plus aujourd'hui comme autrefois par les traditions et les valeurs traditionnelles, ces valeurs n'étant plus transmises. Privé de ces informations, parfois il ne sait pas quoi faire. Ou bien il fait comme tout le monde, par conformisme, ou bien il fait ce qu'on lui commande de faire, comme dans des contextes totalitaires. Et Dieu sait que la publicité peut exercer une sorte de totalitarisme. Ou bien il sombre dans le vide de valeur, le vide axiologique, comme on dit. Celui-ci s'accompagne d'un sentiment d'absurdité et de futilité devant la vie qui n'a plus de sens. Cette absence de sens à la vie n'est pas sans causer chez les personnes de graves troubles névrotiques, dont le symptôme est décrit par la célèbre triade de Frankel, le DAD, D-A-D, qui en anglais veut dire « papa ». Le premier D signifie la dépression jusqu'au suicide. Le A renvoie à l'agression, l'agressivité, la violence, la révolte. Et le D renvoie à la drogue sous tous ses sens. Ce sont les trois symptômes de la perte de sens, qui s'exprime selon les tempéraments. Certaines personnes dépriment, d'autres se révoltent, d'autres vont fuir dans toutes sortes de drogues. La logothérapie, la thérapie par le sens, veut guérir précisément les effets désastreux de la perte du sens de la vie. Pour Frankel, la vie a un sens. Il s'agit là de son postulat de base. Ce sens peut être découvert dans toutes les situations, même les pires. Pour rétablir l'équilibre psychologique des personnes affligées par le DAD, par la perte du sens, pour les aider à retrouver les valeurs de contemplation, de créativité et d'attitude, Frankel met en œuvre les dynamismes de l'humour et tout ce qu'ils impliquent à la fois de capacité de détachement de soi et de dépassement de soi. En premier lieu, à la base de son système psychologique, Frankl affirme la transcendance de soi. L'homme a le pouvoir de se transcender lui-même, de se dépasser lui-même. L'homme passe l'homme, disait Pascal. L'homme se dirige vers quelque chose ou quelqu'un d'autre que lui-même, d'où sa recherche de sens et d'orientation. Être humain, écrit Frankl, signifie toujours pointer vers, se diriger vers quelque chose au-delà de soi, ou bien une cause à servir, ou bien un être à aimer. Ainsi, l'homme se caractérise vraiment par sa recherche de sens. Frankl affirme également la capacité de l'homme à se détacher de lui-même, à s'oublier soi-même. L'homme devient ainsi non pas en se souciant de sa propre actualisation, mais en s'oubliant lui-même et en se donnant lui-même, regardant au-delà de lui-même et mettant le focus à l'extérieur de lui-même. Or, il a découvert que cette capacité se trouve mobilisée et exprimée dans l'humour. Il utilisera dès lors l'humour comme un élément thérapeutique de premier ordre pour guérir les névroses, particulièrement liées à la perte de sens et aux tensions qui en résultent. L'humour, on le sait, c'est une capacité fondamentale de l'homme. Aucun animal n'est capable de rire. Selon Aristote, le comique est le propre de la nature humaine. L'humour traduit essentiellement la capacité de transcendance de l'homme en regard de lui-même, le pouvoir qu'il a de se détacher, de prendre de la distance avec lui-même. L'humour a le pouvoir d'introduire dans la vie humaine la distanciation et de nous placer au-dessus de la situation présente. L'humour, que Frankl appelle aussi l'intention paradoxale, est utilisée dans le but de rendre le patient capable de développer son sens de détachement face à sa névrose en riant d'elle. Le patient est invité à faire précisément ce dont il a peur et à exagérer tellement que ça devienne absurde. Lorsqu'il peut manifester de l'humour devant ses peurs, et ainsi se placer à distance d'elle, le patient se détachait effectivement de son pénible problème. Donc, ce qui mobilise l'intention paradoxale, l'humour, c'est la capacité spécifiquement humaine de se détacher de soi-même pour combattre la névrose. L'homme, comme être spirituel, a la faculté de prendre librement position en regard aussi bien des conditions intérieures qu'extérieures. Plus profondément, l'intention paradoxale, l'humour, renvoie à la question du sens. L'intention paradoxale semble rejoindre le niveau le plus profond de la conscience. L'humour est fondé sur la restauration de la confiance fondamentale en l'être, the basic trust in being. Ce qui se manifeste, c'est plus qu'un changement au niveau des comportements, il s'agit beaucoup plus d'une réorientation existentielle, profonde. Bref, il s'agit de la découverte du sens de la vie. Le sens de la vie ne s'invente pas, on le découvre. Il y a là un aspect objectif. C'est le rôle du prêtre de proposer le sens. Le psychologue, lui, constate qu'il existe un sens. Un peu comme l'ophtalmologue, le spécialiste des yeux, peut nous dire que l'œil est fait pour voir, mais qu'il laisse au peintre de proposer des paysages et des portraits à contempler. Nous sommes interrogés par la vie. À nous de répondre. Nous sommes responsables à la vie, de notre vie. Il n'appartient pas à l'homme de mettre la vie en procès, mais c'est la vie qui interroge l'homme, qui attend quelque chose de l'homme. À l'homme de répondre. Là se trouve ce qui est spécifique à l'homme, à savoir sa responsabilité, sa liberté. Le détachement de soi, le dépassement de soi, produisent du bonheur, du plaisir, qui en sont la gratification, l'effet indirect, non intentionnel, non visé, une sorte de bénéfice marginal. Frankel insiste, il ne faut pas viser le plaisir ou le bonheur comme tel. L'exemple qu'il donne, c'est l'exemple de l'œil qui ne doit pas se voir pour voir. Si jamais notre œil commence à se voir, il faut vite courir chez l'ophtalmologue, chez le médecin. Ça veut dire que nous avons une taie ou une cataracte. L'œil ne doit pas se voir pour voir. L'autre exemple qu'il prend, c'est la porte que l'on ouvre du mauvais côté. Le plaisir, le bonheur sont une gratification de la vie qui est bien vécue. Le plaisir et le bonheur ne doivent pas être cherchés par eux-mêmes. Le bonheur que l'on s'épuise à chercher, la joie, le plaisir que l'on ne trouve pas en la cherchant, ce qu'il faut viser, c'est ce qui produit le bonheur. Consacrer sa vie à une tâche ou rencontrer l'autre dans l'amour. L'actualisation de soi, le bonheur, se trouve dans le dépassement de soi-même. C'est un effet non intentionnel, non visé du dépassement de soi. On manque le bonheur, on manque le plaisir, on manque la réussite quand on s'épuise à la chercher. L'humour pour Frankel doit être considéré comme la manifestation de cette capacité humaine particulière qu'on appelle en logothérapie le dépassement de soi. Pour terminer, au profit des personnes qui ont de la difficulté à dormir, je vous présente la façon selon laquelle Frankel peut guérir l'insomnie par son intention paradoxale, par de l'humour. Dans la plupart des cas, les gens ont peur de rester éveillés et ils s'efforcent de dormir. Et cette tension les empêche précisément de dormir. Voici ce qu'écrit Frankel. La peur de l'insomnie crée une hyper-intention de dormir qui finit par tenir le patient éveillé. Dans la plupart des cas, cette peur est attribuable à l'ignorance. Pour aider à surmonter sa peur, je conseille habituellement à mon patient, non pas d'essayer de dormir, mais de faire exactement le contraire. De rester éveillé le plus longtemps possible. En d'autres mots, l'hyperintention de dormir qui provient de l'appréhension du patient à cet égard doit être remplacée par l'intention paradoxale de ne pas dormir qui provoquera aussitôt le sommeil.
Vous venez d'entendre « Sous l'olivier » avec Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.